Et le monde vu par ce samedi matin, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de Paris Match, que j'appellerai dans 3 minutes. Mais d'abord Sophie Larmoyer, bonjour.
Bonjour Bernard.
Ce matin avec vous, nous tournons nos regards vers le continent africain qui, dans un premier temps, a semblé épargné par le Covid-19. Mais l'OMS avait prévenu, préparez-vous au pire. Et le pire, nous y sommes, Sophie.
Oui, le Covid-19 a gagné quasiment tous les pays d'Afrique. C'était d'abord ce qu'on appelle des cas importés, hein, des gens qui avaient voyagé depuis l'Europe essentiellement, mais désormais ce sont bien des transmissions locales qui sont identifiées.
Et l'enjeu est immense pour éviter une catastrophe absolue. Il s'agit d'essayer de contenir les contaminations, là-bas en Afrique comme ici bien sûr. Que font les États africains pour ça ?
Alors les réponses sont multiples, évidemment prises au niveau national dans les 54 pays. Ça commence par la fermeture des frontières, sauf pour le fret, les produits de première nécessité. Fermeture des écoles, universités, lieux de culte, les transports publics souvent suspendus, vous savez ces minibus bondés. Et certains ont décrété le confinement soit au niveau d'une ville touchée, soit dans tout le pays. C'est le cas par exemple de l'Afrique du Sud depuis hier.
Et le confinement dans les villes africaines, moi je veux bien, mais avec une densité de population extrême comme c'est la réalité, ça paraît illusoire, non ?
Ouais, tous les Africains à qui j'ai parlé cette semaine, des médecins essentiellement, confirment que ça ne sera pas parfait à cause de cette promiscuité bien sûr, mais aussi il faut comprendre que l'économie est essentiellement informelle. On vit au jour le jour, on doit sortir pour manger et nourrir sa famille. Mais tous disent aussi, on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive à faire passer le message que c'est une question de vie ou de mort. Et donc depuis plusieurs semaines déjà, les gouvernements font tout pour isoler chaque nouveau cas ainsi que son entourage et puis ils multiplient les messages de prévention sur les gestes à adopter.
C'est une stratégie de combat, donc très orienté sur la prévention, car, il faut quand même le marteler, l'Afrique n'a absolument pas les moyens de faire face à cette pandémie.
Oui, ça aussi, ils le disent tous. Vous savez, cette simple injonction de se laver les mains, Bernard, c'est vital.
Bah oui.
Et pourtant, c'est un défi. En Afrique subsaharienne, par exemple, 60% des gens qui vivent en ville n'ont pas accès à l'eau chez eux. Et puis, si la courbe des contaminations devait grimper vite et fort, les hôpitaux, les centres de santé ne seraient pas du tout armés pour accueillir les malades. Un exemple pour comprendre, au Sénégal, qui n'est pas le moins bien loti, hein, loin de là, on trouve même l'un des deux gros labos du continent, l'Institut Pasteur de Dakar. Eh bien, le fondateur de SOS Médecins de Sénégal a fait une projection. Si 1% de la population était malade, 160 000 personnes, et que 5% de ces malades développaient une forme grave, s'ils avaient besoin d'oxygène, ça ferait 8 000 personnes à prendre en charge. Or, ce médecin estime que dans le pays, il y a 60 à 100 respirateurs grand maximum. Ils vont donc avoir besoin d'aide.
D'où le tweet du président Macron à l'issue du G20. C'était jeudi soir. Le tweet, c'était « Nous allons lancer une initiative forte en soutien à l'Afrique contre le Covid-19. On ne sait pas encore pour l'heure quelle sera cette initiative. En tout cas, l'Afrique face au coronavirus, ce sera le dossier des carnets du monde que vous présenterez Sophie Larmoyer demain sur Europe 1 à partir de 13h et je vous en remercie. Également avec nous ce samedi matin sur Europe 1, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Régis, bonjour.
Bonjour Bernard.
Avec vous, nous restons en Afrique, mais pas pour parler directement du Covid-19 et du coronavirus, donc puisque il se trouve que le hasard du calendrier fait que vous êtes allé il y a une dizaine de jours là-bas au Mali avec les Français de l'opération Barkhane. Parce que l'opération militaire Barkhane, eh bien, elle continue même à l'époque du coronavirus et même si les Français se retirent de certains territoires, par exemple les Français qui étaient en Irak vont rentrer dans les tout prochains jours, là les militaires qui servaient d'instructeurs et de conseillers. Mais les gens de Barkhane sont toujours sur place. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? D'abord, il y a des photos très impressionnantes puisque vous assistez en direct, Régis, à une opération contre deux djihadistes qui perdent la vie d'ailleurs dans cette affaire.
Oui, tout à fait. Non, c'est effectivement des images exceptionnelles, des images rares d'assister à un combat. En l'occurrence, il s'agit de la Légion étrangère qui est engagée donc en Afrique, au sud du Mali, à la frontière Mali-Niger. Vous savez, toujours cette zone compliquée, cette zone qu'on appelle la zone des trois frontières, où il y a eu l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 13 de nos soldats récemment. Et il y a eu un certain nombre d'accrochages. C'est vraiment le territoire des djihadistes et la Légion a investi ce territoire pour les en chasser, pour les empêcher justement de mener des raids sur d'autres provinces et sur d'autres endroits dans le secteur et de déstabiliser véritablement le tissu social africain comme ils le font depuis plusieurs années. Image exceptionnelle, oui, parce que nous avons Alvaro Canovas, qui est mon photographe, et moi-même assisté en premier puisque nos véhicules ont été attaqués par deux djihadistes qui circulaient à moto. Et nous avons pu montrer comment la Légion opère dans ces cas-là et comment, c'est un véritable combat. Ce sont des images rares, des images d'un combat au sol,
mais avec en général...
Oui, oui, oui. Et, mais en général, c'est surtout quand se produit ce genre d'incident, quand les djihadistes tout à coup sont mis à découvert, eh bien, ce sont les drones ou les mirages qui se chargent d'appuyer sur le bouton et de frapper. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un combat arme d'assaut contre arme d'assaut, ouais, qui se finit effectivement par la mort de deux djihadistes, avec toute la façon dont la Légion combat, dont la Légion fait la guerre, puisque elle finit également avec ses partenaires maliens par enterrer ces deux djihadistes, ouais, selon le rite musulman. Donc tout est respecté. Il y a voilà, c'est des hommes qui sont assez magnifiques. J'ai eu la chance de passer 8 jours avec eux. Ce que j'en ai noté au-delà de cet incident, au-delà de cet accrochage, c'est que les légionnaires passent leur vie à travailler pour le groupe. C'est peut-être peut-être il y a un enseignement qui peut nous aider dans nos sociétés aujourd'hui individualisées. Mmh. C'est que voilà, ces légionnaires sont magnifiques parce que ils passent leur temps à penser aux autres. Ils sont solidaires les uns avec les autres. Ils viennent de tous les horizons. Il y a des Moldaves, des Népalais, des Malgaches, beaucoup de gens des pays de l'Est, etc. et des officiers français. Et tout ça fonctionne de façon absolument remarquable. Donc j'ai eu l'assistance, la chance de passer quelques jours avec cette troupe d'élite qui, peut-on dire, fait la fierté de notre pays, à mon sens.
Merci beaucoup en tout cas, Régis Le Sommier. Son reportage à lire dans Match cette semaine. La Légion passe à l'attaque par l'opération Barkhane, bien sûr. Et merci à vous aussi, Sophie Larmoyer. À tous deux, je souhaite un très très bon week-end.